Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun, ceux qui repoussent leurs limites et se lancent des challenges extraordinaires. Ces sportifs pas toujours médiatisés, mais qui ont de formidables histoires à vous raconter. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite. Que vous soyez sportif ou non, j'espère que vous en tirerez un maximum d'inspiration et de bons conseils pour être une meilleure version de vous-même au quotidien. Ce podcast a réellement changé ma vie et j'espère qu'il changera la vôtre aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, je m'appelle Barthélémy Fent et je suis votre hôte sur le podcast. Sachez qu'un exploit ne se fait jamais sans un excellent public. Alors si vous souhaitez que le podcast entre dans la légende, mettez-lui une note sur votre application de podcast préférée. Et parlez-en aussi à vos amis sportifs. Qui sait, cela donnera sûrement de futurs champions. Et sachez que si vous laissez un commentaire, je prends un énorme plaisir à tous les lire. Avant de commencer, j'en profite aussi pour vous dire que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Je l'utilise pour partager ce que l'audio ne permet pas de montrer. Vous pourrez y découvrir les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me suggérer des invités. D'ailleurs, je tiens sincèrement à remercier Sophie qui m'a présenté l'invité du jour. Cela me fait super plaisir quand on me présente quelqu'un, alors n'hésitez pas à me recommander des invités que vous les connaissiez ou non. Allez, passons à l'invité du jour. Elle s'appelle Hélène Ngom, elle a 25 ans et elle est escrimeuse. Elle tombe sous le charme de l'épée en regardant Laura Flessel que l'on ne présente plus. C'est un sport élégant, dit-elle. Elle gravit les échelons, découvre le niveau international très tôt, voyage et découvre tous les styles de jeu. Bref, elle semble s'envoler vers un destin plein de succès et de médailles. Mais la vie n'est pas toujours aussi facile. Et il arrive que des obstacles se mettent en travers de notre chemin. Hélène apprend qu'elle a la maladie de Crohn, une maladie incompatible avec le sport de haut niveau selon certains médecins. Mais Hélène, c'est le courage et l'optimisme incarnés dans une même personne. Elle a le sourire jusqu'aux oreilles et elle n'abandonne pas ses rêves. Pour elle, il est interdit de lâcher et de penser que c'est impossible. La preuve en est. Les médailles tombent et la consécration est là. En mars 2019, elle gagne sa première compétition mondiale en battant une Italienne deux fois championne du monde. Elle transmet un merveilleux message plein d'humilité et de force mentale. Dans cet épisode, on va parler de sa découverte du haut niveau, de sa jeunesse, de son emploi du temps ultra chargé car elle est encore amateur, et aussi évidemment un petit peu de la maladie et de la difficulté de porter une maladie invisible. Nous avons enregistré cet épisode à l'INSEP en extérieur, donc je suis désolé car des fois des petits avions sont passés par là, mais rassurez-vous, rien de désagréable. J'espère que vous sortirez de cette conversation aussi souriant que moi, car Hélène m'a réellement transmis sa fibre. La fibre des gens qui préfèrent voir le verre à moitié plein, la fibre des gens qui sourient, la fibre des gens qui y croient. Bref, c'est un merveilleux message d'espoir et je vous souhaite un très bon épisode. Salut Hélène.
Salut.
Merci beaucoup de me recevoir dans ce temple du sport qui est l'INSEP.
Ce magnifique temple.
Exactement. Ouais. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais moi qui étais un petit enfant fan de sport et qui habitait juste à côté, je passais devant quasiment tous les jours et j'avais le rêve d'y rentrer. Et grâce à toi, je suis là aujourd'hui, donc merci beaucoup.
Ah, c'est la première fois du coup ?
En fait, je suis venu une fois, mais pour une compétition de crossfit dans le gymnase. Okay. Mais tu vois, c'était très encadré et du coup, j'avais pas eu la chance de voir un petit peu les autres salles, quoi.
Ok.
Donc, super. J'aime bien, du coup, commencer les épisodes par te demander quel est ton premier souvenir de sport ?
Alors, mon premier souvenir de sport, j'hésite entre le foot, enfin les matchs de foot en général, parce que mon père a fait du foot et du coup c'est resté un peu dans la culture familiale. Et l'athlétisme, qui est aussi un peu dans la culture familiale, mais du côté des frères de mon père, du coup.
D'accord.
Donc, on était un peu baigné dans le sport depuis qu'on était petite, et on a toujours regardé ça à la télé.
Ok, trop cool. Et du coup, tu dis petite, parce que vous avez, t'avais des sœurs ?
Oui, j'ai une petite sœur et un petit frère.
D'accord, ok. Et c'est quel sport que vous avez fait en premier, du coup ?
Alors, avec ma sœur, je crois que c'était la gymnastique. On était en cours ensemble, d'ailleurs. Elle avait un peu du mal, elle était pas très souple. Du coup, elle me faisait de la peine. Mais ouais, c'était sympa, on faisait de la gymnastique ensemble. J'ai jamais fait de sport avec mon frère, par contre.
D'accord, ok. Et du coup, aujourd'hui, tu fais de l'escrime. T'as découvert ce sport à quel âge ? À quel âge ?
À peu près à 10 ans. On a vu ça à la télé avec ma sœur. On a vu Laura Flessel gagner, bien sûr.
C'est vrai ? Ok.
Oui, et on s'est dit que ce serait top qu'on fasse ce sport.
Et c'est hyper marrant parce que à chaque fois que... Enfin, souvent, quand je demande cette question, il y a souvent un sportif ou un film ou un fait marquant qui a mené vers ça. Et du coup, Laura Flessel, c'est quelqu'un qui t'a inspiré et qui t'a donné envie de pratiquer ?
Exactement. Puis, enfin... C'était aussi, elle était belle, très élégante. Donc ça aussi, ça a joué sur ma vision de l'escrime finalement, parce que je vois ça comme un sport, élégant.
Ouais, c'est un sport super noble. Ouais. C'est un sport super noble. Et le fait qu'aujourd'hui, elle fasse peut-être un petit peu plus du, elle fait de la politique, il me
Exactement.
Semble.
Exactement.
Ouais, ça t'inspire aussi ça comme future carrière ?
Pas du tout, non. Chacun son domaine, mais ouais. Ce sera pas le mien, je pense.
Ok, d'accord. Trop cool. Et du coup, t'avais quel âge à ce moment-là ?
10 ans.
10 ans. Ouais. Donc tu t'es inscrite ?
À gagner, oui. Et ma sœur a pas pu commencer parce qu'elle était trop jeune.
Ok.
Et du coup, j'ai commencé toute seule et après, elle a commencé quelques années plus tard, dans le même club.
Ok. Raconte-nous un peu tes premières séances d'escrime. Comment ça se passe ? Tes entraîneurs
J'ai pas de souvenirs. Où j'ai eu du mal, où j'ai trouvé que c'était trop difficile, que j'allais abandonner, que je crois que j'ai tout de suite accroché en fait, et que je me suis appliqué à faire les bons déplacements parce qu'ils sont assez atypiques quand même.
Ouais.
Et ça s'est venu assez rapidement et assez, enfin de manière fluide finalement. Puis j'avais un entraîneur assez, comment dire, assez dur quand même, dans le bon sens, dans le sens compétitif surtout.
Ok.
Elle voulait toujours qu'on soit les meilleurs, qu'on se dépasse toujours. Donc finalement, ça m'a mené au niveau assez vite finalement.
Ok. Et c'est elle qui t'a donné un petit peu ce goût de l'effort du coup ?
Exactement.
Ouais. Et t'en as quoi comme souvenir un petit peu de cette période où t'étais enfant et peut-être que le professionnalisme ou le côté un petit peu haut niveau était encore loin ? T'en as quoi comme souvenir ?
Alors les premières années, j'étais pas du tout là-dessus, je savais même pas que ça existait d'ailleurs,
ouais.
Mais j'étais toujours pour partir en compétition, mais pour gagner.
Ouais.
C'était pas dans mes objectifs de faire deuxième ou troisième, d'ailleurs apparemment je pleurais pendant des heures quand je perdais, mais mon objectif ça a toujours été de gagner, oui.
Ok, donc t'as l'esprit de la gagne quoi.
Exactement.
Et t'as retrouvé ça dans d'autres disciplines ? Je sais pas, à l'école ou dans la vie de tous les jours, cette envie ?
Dans l'école, pas forcément. Je perçois pas du tout la même... Non, je vois pas du tout ça dans l'apprentissage, scolaire en tout cas.
Ouais.
Mais dans la vie, oui, ça m'a mené à toujours essayer de me... Enfin, donner le meilleur de moi-même et... Et finalement, ça évite d'être déçu. Quand on s'est donné à 100%, finalement, on ne peut pas être triste de ne pas s'être dépassé. Ouais. On a donné le maximum et si on n'a pas réussi, c'est comme ça. Mais...
C'est une belle leçon de vie, je trouve. Si on se donne le maximum, on peut pas regretter
pas déçu,
les choses.
Ouais.
On peut pas être déçu. Tu as tout à fait raison. Et du coup, donc tu fais tes premières compètes à quel âge à peu près ? Est-ce que tu te mets à gagner tout de suite, du coup ?
Je crois que j'ai commencé dès ma première année d'escrime, les compétitions.
Ouais, ok. Ah ouais, c'est précoce.
C'était comme ça au club. Enfin, c'est pas qu'on nous a pas demandé notre avis, mais on n'y était pas réticents, en tout cas.
D'accord.
Du coup, dès qu'il y avait une compétition, on nous inscrivait et on y allait, quoi.
Ah, c'est génial.
Et puis j'ai un peu essayé le sabre aussi. Bon, je comprenais pas tout parce okay. que l'épée, on peut toucher partout avec ouais, la ouais. pointe, mais le sabre, il y a des règles de convention. Donc on privilégie l'attaque.
D'accord.
Donc quand on a commencé par l'épée, c'est un peu compliqué de se mettre au sabre.
D'accord. Est-ce que tu peux rapidement un peu...
Expliquer ?
Ouais, expliquer la différence qu'il y a entre les différentes disciplines. Parce que, bon, du coup, moi, je me suis beaucoup renseigné. J'ai passé plusieurs minutes à vraiment essayer de bien comprendre la différence entre chacun. Il y a aussi des différences de perception par les puristes. Est-ce que tu peux... Alors, sans parler des... on va essayer de fâcher personne. Mais est-ce que tu peux expliquer déjà la différence entre le fleuret, l'épée et le sabre. Sabre.
Alors, l'épée, c'est le plus simple à comprendre, finalement.
D'accord.
La surface valable, c'est tout le corps, ouais. de la tête aux orteils.
Ok.
On touche seulement avec la pointe de l'épée. Mm-hmm. Et si les deux adversaires se touchent en même temps, chacun a un point.
D'accord.
Alors que le fleuret, on touche seulement le tronc.
Ok.
Donc, on va dire la fin du cou au début des. Enfin, aux hanches. Seulement avec la pointe aussi. Et le sabre, c'est au-dessus de la ceinture. Mais au fleuret et au sabre, comme je l'ai dit, on privilégie l'attaque. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu vas. Sur. L'arbitre dit en garde prêt à aller mmh. au début de chaque match. Toi, tu vas attaquer, donc tu auras la priorité.
D'accord.
Pour récupérer la priorité, je dois soit prendre le fer en faisant une parade.
D'accord.
Pour pouvoir te toucher.
Ok, je vois, oui.
Si tu m'attaques et que tu me touches, et que je te touche en même temps, c'est toi qui as la touche, parce que tu as attaqué.
D'accord,
ok. Mais si j'ai fait parade et riposte, c'est moi qui ai le point, okay. même si tu me touches en même temps.
Donc ça récompense ceux qui sont un petit peu plus offensifs.
Si je... Exactement.
Ok. Et donc toi, des trois disciplines, t'as tout de suite fait de l'épée.
Oui, mon club faisait les trois, mais était surtout basé sur l'épée, donc voilà. Et puis je comprenais rien au fleuret.
Comme ça, c'est dit. Et c'est hyper intéressant. En tout cas, ça, j'espère que ça aidera les auditeurs à un peu mieux comprendre comment se positionner. Et donc toi, tu t'es jamais posé la question de quelle discipline choisir. Et ça t'a jamais tenté de passer sur une autre à un moment, juste pour essayer de te diversifier ou d'apprendre d'autres choses? Est-ce que ça se fait, ça, dans l'escrime? Est-ce qu'il y a d'autres sportifs qui changent?
L'escrime, généralement, non. Il y a une seule italienne qui est fleurettiste.
D'accord.
Qui fait aussi du sabre, mais c'est la seule à réussir à faire les deux.
Ah ouais, d'accord. Donc il y en a une.
C'est vraiment très rare.
C'est
et puis elle est super forte. Donc okay. On part pas sur le même pied d'égalité.
Ok, ça marche.
Mais on peut. Enfin, c'est difficile de passer, par exemple, de l'épée au sabre. C'est pas du tout les mêmes déplacements. C'est pas la même les mêmes conventions. Et c'est même pas la même manière de toucher, parce que le sabre, en plus, on peut toucher avec toute la lame, d'accord. avec le tranchant et la pointe. Alors ouais. qu'à l'épée, c'est seulement la pointe. Donc
effectivement,
la gestuelle ouais. est complètement différente.
Ouais. D'où le fameux surnom de Laura Flessel, la guêpe, qui piquait avec la pointe de son épée, généralement sur le pied d'ailleurs, non ?
Exactement.
C'était sa botte secrète, il me semble.
À l'épée, il y a deux types de poignées. Il y en ouais. a une qui s'appelle la poignée cross, qui prend la forme de la main quand, okay. Quand on la tient, finalement. Et l'autre, c'est la poignée droite. Les tireuses et les tireurs, en général, la tiennent au bout pour avoir plus d'allonge.
D'accord.
Et les coups particuliers des poignées droites, c'est les touches à la main, à la cuisse et au pied. Donc comme Laura Fessel était en poignée droite, voilà, c'était okay. ses spécialités.
Et toi, tu l'as repris un petit peu comme source d'inspiration ou c'est quoi tes points forts?
Absolument pas. Ni la main, ni la cuisse, ni le pied. Chacun sa morphologie, chacun son type de jeu, c'est pas du tout... Après, je suis quand même offensif, plus offensif que défensif, mais c'est plus les touches au corps qui...
Ouais.
Qui sont. Enfin, je suis plus à l'aise là-dedans, en tout cas.
Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi j'ai beaucoup été dans les salles de musculation et j'entendais beaucoup des jeunes garçons qui disaient je veux le corps de un tel ou je veux le corps de un tel. Et moi j'arrêtais pas de leur dire mais enfin arrête de vouloir copier, t'as ton corps, t'as ta morphologie. Et toi c'est exactement la réponse que tu m'as dit, tu vois, même si c'est quelqu'un qui t'a inspiré au début et t'as essayé de trouver ton style de jeu, ton style
Exactement.
de... Mais donc tu vois, ça c'est une petite leçon que je trouve hyper intéressante. Et à quel moment tu as commencé à percevoir un petit peu le haut niveau? À quel moment tu as commencé à toucher du doigt tout ça? Parce que j'ai vu que tu avais quitté l'INSEP en 2016 en tant que résidente. Tu pourras nous expliquer un petit peu après ton parcours.
Oui, bien sûr. Alors, c'était quoi la question déjà?
Bah, la première question, c'était de savoir à quel moment tu as commencé à songer au haut niveau et à quel moment tu as un petit peu découvert, tu as passé un petit peu la porte on va dire, des compétitions nationales et internationales.
Je dirais vers 15 ans à peu près.
Ouais.
Alors, quand on est minime, je sais plus trop à quelle catégorie d'âge ça représente, mais c'est le début des compétitions nationales.
D'accord.
Et du coup, on représente chacun sa ligue, soit sa région,
Ouais.
enfin son département plutôt. Et on a une compétition individuelle, donc on rencontre des filles qu'on n'avait jamais vues justement.
OK.
Et on a aussi une compétition par équipe. Donc là commence un petit peu le haut niveau parce qu'on commence à voir les différences de jeu, les différences de morphologie, de force, etc. Parce qu'arrivé à cet âge-là, on grandit pas tous de la même manière.
Ouais, c'est clair.
Donc il y en a qui c'est encore des crevettes et il y en a c'est des molosses.
Ouais.
Mais ça nous apprend aussi à se dépasser et à modifier nos talents, entre guillemets.
T'étais dans quel camp, toi, quand entre les
Moi, j'ai
crevettes
toujours
et
été grande.
dès le début?
Oui. Mais après les années minimes arrivent les années de cadettes. Et là, on commence à faire des Coupes du Monde.
Ok. Ah ouais, donc ça arrive
Voilà, assez
super jeune,
vite.
ouais.
Voilà.
Ouais.
Et du coup, c'est assez difficile parce que on passe du niveau national à international, mais je trouve ça difficile à intégrer. De devoir battre des filles qu'on n'a jamais vues, enfin, on se doute pas forcément de tous les jeux qui peuvent exister en fait.
Ouais, d'accord.
Et quand on arrive sur la scène internationale, c'est encore d'autres nouveaux jeux qu'on n'imaginait même pas.
Ouais.
Donc c'est assez difficile de s'adapter, mais finalement on y est confronté assez tôt. Et du coup, quand on arrive en senior, comme je le suis aujourd'hui, on est plus ou moins habitué.
Et toi, c'était quoi le type de jeu qui t'a marqué ou qui t'a surpris un petit peu
Quand j'étais plus jeune,
Ouais.
les Allemandes.
Les Allemandes.
Les Allemandes,
Ah,
tout
vous
en
vous appelez comme
force.
ça par pays et tout.
Oui,
Ok, d'accord.
on s'appelle par les noms aussi.
Ouais, mais j'espère.
Même quand on est copine, on s'appelle par les noms.
D'accord.
Oui, les Allemandes, enfin. Dans le sport, y en a certains qu'on appelle les bourrins.
Ouais.
Bah, c'était les Allemands.
Donc du coup, ouais, c'est
On
quoi?
avait des bleus, les parades étaient. Enfin, vraiment, c'était pas du tout le même style que le jeu français, parce que finalement, en France, on nous apprend à faire, enfin, à diversifier nos coups et
Ouais.
avoir plusieurs coups en attaque, en défense et en contre-attaque.
OK.
Alors que finalement, les étrangères, elles ont deux ou trois coups, elles le font très bien. Et en
Et elles le font
général,
tout le temps.
voilà. Exactement, t'as tout compris.
Donc elles tombent à l'usure quoi, généralement.
Exactement. Et quand t'as pas compris, bah tu te prends 15 fois la même touche.
OK.
Ce qui est hyper frustrant, mais avec l'âge, on apprend aussi à se démener de ce genre de situation.
Et c'est hyper intéressant ce que tu dis là sur le fait que dans certains pays on leur apprend un petit peu la répétition et la constance. Et en France on va peut-être plus apprendre le style, la variété,
La beauté.
la beauté. Ouais, mais c'est un sport qui est vraiment très noble quoi. L'escrime, mais on le voit, c'est des gens qui sont respectueux, qui sont super souriants, tous les athlètes. Et je trouve que t'en es une bonne incarnation aussi.
Merci.
Et du coup, donc là, t'as quel âge à ce moment-là quand tu commences à combattre les premières, tes premières,
International, on dit?
ouais, tes premières compétitions internationales?
15 ans, je pense.
Ouais, 15 ans.
C'était principalement en Allemagne, donc forcément il y avait beaucoup d'Allemands. Il y avait quelques Russes aussi. C'était assez surprenant parce que du coup on découvrait aussi la culture.
Ouais.
Par exemple, sur les podiums, quand il y avait deux Russes, elle se serrait pas la main ou elle se faisait pas la bise, elle se faisait un bisou sur la bouche.
Ok. D'accord.
Nous, les premières fois, ça nous a choqués. On s'est dit, mais c'est bizarre, pourquoi elles font ça? Dieu de nos 15 ans en plus, on était toutes, toutes un peu prudes. Mais oui, ça apprend aussi à connaître différentes cultures, le sport à l'international.
Ouais, t'as bien aimé ça, cet apprentissage de culture, justement, et le fait de voyager. Parce qu'à 15 ans, quand tu vois tout ça, ça apprend, ça fait grandir vite, quoi. Je veux dire, quand on voit, il y a des enfants qui sont, ou même moi parmi mes amis, j'ai des amis qui ont une trentaine d'années, qui sont jamais sortis de la France, quoi.
Je sais pas si ça apprend à vivre, à mûrir plus rapidement. Ça apprend surtout à mûrir de manière différente et à avoir un œil plus ouvert.
Ouais. Ouais, c'est clair.
Parce que finalement, je pense que rester dans son pays, ça n'aide pas non plus à ouvrir les esprits.
Okay. Ouais, c'est vrai.
Je dis pas non plus que les personnes qui ne voyagent pas beaucoup ne sont pas ouvertes d'esprit, mais ça apprend quand même à voir surtout,
ouais,
qu'il y a différentes choses.
Bah, quand tu vois les choses, tu les assimiles.
Exactement.
Beaucoup mieux. Hein.
C'est pas comme à la télé, ouais. C'est pas du tout la même interprétation finalement.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais même sur un écran, tu vois, j'avais vu une étude sur les phobies. Mmh. Avec des enfants qui avaient la peur des animaux, la peur des chiens. Et ben en fait, le fait de leur montrer plusieurs minutes par jour d'autres enfants sur écran en train de jouer avec des chiens, ben en fait la phobie disparaît. Tu vois, donc le fait de voir
L'intégration.
Mmh. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça a pas beaucoup de rapport, désolé.
Si.
Mais en tout cas, voilà, le fait d'être au contact de choses différentes et contre nos mœurs, ça joue bien, quoi. Et donc pour reprendre un petit peu. T'as 15 ans, tu commences à faire tes premières compétitions internationales. Et aujourd'hui, on est à l'INSEP. Donc il s'est passé quand même beaucoup de chemin entre les deux. Ça a été quoi un petit peu les grandes étapes de ta carrière, du coup?
Équipe de France cadette, équipe de France junior, équipe... J'ai pas encore été en équipe de France senior.
D'accord.
Mais l'année prochaine, j'espère. Mais il y a un gros cap entre les années jeunes et le passage en senior. C'est pas du tout la même destination, déjà.
Ouais.
Parce qu'en général, quand on est dans des catégories jeunes, on reste en Europe. Là, on part une fois à Cuba, une fois au Qatar, une fois en Chine. Enfin, on fait vraiment quasiment toute la planète.
Ok.
Donc, au niveau de la culture, déjà. Même si on visite pas beaucoup, ça nous apprend aussi à voir que la France, c'est tout petit.
C'est incroyable. Ouais, du coup, t'es rentré dans plusieurs équipes de France. Là, j'ai vu que t'as plusieurs titres en équipe ou même en individuel. T'as gagné une Coupe du Monde là en Chine récemment.
Oui, en mars.
En mars. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu parce que j'ai vu que t'avais battu en plus en finale une femme qui avait plusieurs titres mondiaux, qui était médaillée d'argent au JO de Rio. Waouh, ça doit te mettre sur un tremplin là, non?
Alors, pas, enfin, personnellement, pas du tout, parce que finalement, à l'épée, ça va tellement vite. Un jour, on peut être, on peut gagner une compète et le lendemain perdre en poule.
D'accord.
Ça varie tellement. Les podiums à l'épée ne sont jamais les mêmes.
Ok. Qu'est-ce qui fait ça d'ailleurs?
L'arme, je pense. Enfin, ça dépend déjà. Je sais pas du tout, parce que le premier jour on a les poules, et si on n'est pas première de notre poule, on doit tirer un tableau pour se qualifier le deuxième jour.
D'accord.
Donc là déjà on est beaucoup à avoir à peu près le même niveau, donc
ouais.
Quand on se rend compte, il y en a, enfin ça en est 20.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
quand même plus de la moitié pour le tableau principal.
Ouais, je vois, ouais.
Donc d'une compète à l'autre, déjà, on peut tirer plusieurs fois la même fille pendant l'année, mais gagner la moitié des matchs. Okay. Parce que le niveau est à peu près équivalent et que bah, une fois, elle aura plus envie, elle sera plus en forme. Je sais pas, mais...
Ouais.
C'est l'épée. C'est aussi la beauté de l'épée.
Il y a un peu de... Il y a une part de d'instinct et de...
Et de chance, surprise, quand même. Ouais. Ouais.
Beaucoup de chance ?
Pas beaucoup, mais il y a quand même un petit quota de chance.
Ouais, bah dans tous les sports, tu vois.
Oui, bien sûr.
Faut
Mais ça se provoque aussi, la chance.
Ouais, ouais, c'est clair.
Mais pour revenir à la Chine, enfin, sur la compétition, finalement, à chaque match, je savais que la fille, de toute façon, elle allait être forte.
Ouais.
Et qu'elle pouvait me battre comme je pouvais la battre. Donc je me posais pas la question de comment je vais faire, ça se trouve, aujourd'hui je suis pas en forme, alors je vais me faire terrasser, etc. Je me suis pas posé de questions, je suis allé sur la piste, j'ai fait ce que je pouvais faire. Sans regret, encore une fois, je me suis donné au maximum sur mon match et au fur et à mesure ça passait et je me disais, oh bah, t'es capable de le faire.
Ouais.
Même si t'es cramé, tu peux quand même le faire. Tu peux dépasser tes limites et... Et finalement, enfin, je pense que moins on se pose de questions sur les capacités qu'on a, mais en essayant de se donner au maximum, enfin, je trouve que c'est comme ça qu'on se révèle à notre meilleur niveau finalement.
Ouais, c'est très bien dit. et aujourd'hui, tu t'organises comment ? Parce qu'il me semble que tu t'entraînes avec le club de Beauvais. Dis-moi si je me trompe, hein. Mmh. Et tu passes certaines séances d'entraînement du coup ici à l'INSEP. J'ai vu que tu faisais aussi des études. Comment est-ce que ça se passe du coup une semaine avec toi ? Ça doit être bien rempli, je pense.
Alors ça dépend des jours, ça dépend des semaines et ça dépend des mois, bien sûr, parce que j'ai pas la même forme chaque semaine. Mais à Beauvais jusqu'à janvier. J'essayais d'y aller au moins une fois par semaine pour prendre ce qu'on appelle des leçons individuelles. C'est là qu'on apprend, enfin qu'on répète les gammes en fait, qu'on apprend les coups qu'on sait faire et qu'on veut faire pendant les matchs.
Ouais.
Et ensuite, le mardi et le jeudi, je venais ici à l'INSEP pour faire les séances d'assaut, justement pour répéter mes gammes en match, en situation réelle. À côté de ça, à Alfortville, j'ai mon préparateur physique. Donc ça, j'essaye de le faire une à deux fois par semaine, quand je peux.
Ouais.
À côté de ça encore, je suis en psychologie. Donc j'ai les cours à domicile parce que entre la santé, le sport de haut niveau, les voyages, etc., ça devenait complètement ingérable.
Ouais.
Donc j'ai trouvé que c'était la meilleure solution finalement. Et le mercredi, comme bien sûr à l'escrime, on est un sport amateur. Du coup, on n'est pas professionnel, on est rémunéré par les clubs, mais on ne peut pas en vivre.
Ouais.
Le mercredi, je garde des enfants, donc je suis nounou aussi.
D'accord, c'est marrant.
Faut bien payer le loyer.
Bah ouais, effectivement, ouais. Ouais, donc, et tu t'en sors avec autant d'activités. Enfin, ça te permet d'arriver à t'entraîner tous les jours un petit peu quand même.
Je m'entraîne pas tous les jours, non. Par exemple, le mercredi, je m'entraîne pas.
Ouais, t'as raison, tu fais des breaks.
Parce que j'ai essayé en début d'année de tout caler et j'ai vite été submergé de fatigue. Donc,
ouais.
J'essaye d'étaler, de faire au moins un entraînement par jour, sauf le mercredi.
Ok, d'accord. Et là, tu me parles de fatigue. Mmh. Quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit, parce que j'étais pas au courant. Que tu avais une maladie que je connaissais très peu avant de t'appeler, que maintenant je connais mieux. Ça s'appelle la maladie de Crohn. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est ? Moi, en tout cas, je suis bluffé par ta force pour combattre ça, tu vois. En plus, j'ai vu que tu avais que c'était sur la bonne voie pour te soigner. Donc, franchement, je te souhaite à 200% de te débarrasser de ça et en tout cas de le vivre et d'être heureuse au quotidien. Mais toi, comment est-ce que tu le vis et quand est-ce que tu l'as découvert ?
Alors, je l'ai découvert il y a à peu près 8 ans. Alors, la maladie de Crohn, ce qu'il faut savoir, c'est une maladie chronique,
ouais,
inflammatoire et intestinale.
Okay.
Donc moi, la mienne, elle se situe au niveau du côlon. C'est la partie basse de l'intestin.
Ouais.
Et ça fonctionne par poussée. Donc pendant un certain temps, on peut être en rémission. Donc tout va plus ou moins bien. Et d'autres périodes où on sera en crise, en poussée justement, où tous les symptômes de la maladie vont être présents quotidiennement. Ah oui, et ça fonctionne par poussée, et souvent les symptômes sont la diarrhée, les nausées, la fatigue, parce que l'inflammation forcément provoque plus de fatigue.
Ouais. Tout ce qui est inflammatoire provoque énormément de fatigue, parce que c'est ton corps qui sécrète justement,
qui lutte
contre ouais, l'inflammation.
Exactement. Des ulcères, du sang dans les selles, etc. Enfin, rien de très glamour, rien de très agréable non plus. Mais du coup, au début, surtout vu que je l'ai eu à l'adolescence, c'était assez compliqué. Parce que à cet âge-là, le rapport au corps qui change justement, c'est un peu difficile. Donc quand on ajoute ces éléments dont en général on est pudique,
ouais,
c'était assez compliqué au début. Mais finalement, tout le monde va aux toilettes.
Exactement. C'est bien dit.
Donc, le côté glamour, je m'en suis détaché assez facilement. De toute façon, quand il faut aller voir un médecin, c'est son travail.
Ouais, bien sûr.
Donc, il en a vu des vertes et des pas mûres. Ce ne sera pas le pire cas qu'il aura vu.
Ouais, c'est clair. Et toi, tu parles du coup assez souvent de fatigue. Mmh. C'est quelque chose... Tu me dis que tu essaies de beaucoup organiser ton temps par rapport à ça. La récupération, j'imagine que c'est hyper important. C'est quoi un peu tes petites astuces pour mieux récupérer, pour te sentir un petit peu mieux et faire passer un petit peu les périodes un peu où c'est moins facile, quoi.
Alors, j'ai fait de la relaxation.
Ouais.
Et de la sophrologie. Donc, au niveau de la respiration, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant.
Okay.
J'arrive à me détendre et ça m'aide à me détacher un petit peu de la fatigue de temps en temps.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est le symptôme le plus dérangeant finalement. Parce qu'on peut rien y faire.
Ouais.
Il est là et on doit s'adapter alors qu'il est très dérangeant. Et finalement, dormir ne repose pas forcément.
Ouais, c'est vrai.
Donc il faut essayer d'adapter les emplois du temps justement. Ouais. Ne pas se surcharger, apprendre à accepter le repos aussi.
Ouais.
Et accepter de l'aide aussi. Par exemple, je travaille en préparation mentale pour justement m'apprendre à mieux gérer cette fatigue. Et quand il y a eu des compétitions ou même mes semaines d'entraînement type, j'essaye d'aller voir le kiné une ou deux fois par semaine parce que je sais que même si je me sens bien dans mon corps,
ouais,
comme j'ai forcément du mal à reconnaître les limites de ma fatigue, il y a toujours un moment où je vais un petit peu dépasser et la montagne va s'écrouler. Donc ça m'aide à un petit peu gérer le problème, on va dire.
Ok. Je te pose une dernière question là-dessus et après j'ai un milliard d'autres questions à te poser. et j'ai vu que tu t'étais beaucoup aussi engagé au travers de cette cause. Parce que c'est une maladie dont on parle pas beaucoup. Aujourd'hui, ça représente quoi pour toi de représenter une association et d'être un petit peu d'être un porte-parole un peu pour cette maladie-là? Parce que finalement, on voit très peu de sportifs de haut niveau très peu, je sais pas, mais on voit pas toujours des sportifs de haut niveau qui assument leur maladie et qui en parlent autant que toi, quoi.
En fait, je me suis dit après ma victoire en Chine, justement.
Ouais.
Que ça pouvait être un message d'espoir. Que c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit se poser toujours des barrières, qu'on doit se restreindre. Parce que justement, la maladie nous restreint déjà et on n'a pas besoin de se mettre encore plus de barrières. On peut être malade mais vivre comme tout le monde finalement.
Bah ouais, c'est clair.
Et comme c'est une maladie invisible. Je me suis dit, autant lui donner le plus de visibilité grâce à cette victoire. Parce que justement, c'était pas juste une victoire par rapport au sport et les années de haut niveau qui étaient récompensées. C'était aussi une victoire par rapport à la maladie. À ce moment-là, j'étais en crise en plus, donc Donc c'était vraiment inespéré, je pense que personne s'y attendait, ni les médecins, ni les entraîneurs, parce que j'étais dans...
Tu penses que ça change le regard des gens avec toi un peu ?
Par rapport à la maladie ?
Ouais.
C'est pas ce que je veux transmettre en tout cas.
Ouais.
Je veux justement faire comprendre que, ok, on a certaines limites, mais qu'en s'adaptant, on peut quand même vivre comme tout le monde.
Mais tu l'as parfaitement montré.
Parce que... Merci. Par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Tout à l'heure, on parlait de la fatigue. Et la maladie de Crohn, justement, des fois, se loge sur les articulations. Donc, des douleurs articulaires et qui rendent la mobilité un peu difficile. Quand on prend les transports en commun et qu'on me voit, par exemple, moi, jeune fille de 25 ans qui a l'air sportive, on se dit jamais que je suis malade.
Ouais.
Alors qu'il y a certains moments où quand je demande une place parce que ça va pas, c'est vraiment que mon corps ne va pas me lâcher, mais oui, voilà, il a ses limites. Sauf que les personnes dans les transports en commun ne voient pas cet aspect-là, donc ne veulent pas laisser leur place.
Ouais.
J'aimerais justement que soit cet aspect-là qui soit changé dans la vie des malades, parce que je trouve qu'on attache trop d'importance à ce qu'on voit seulement.
C'est clair.
Quand on ne connaît pas les personnes, on ne peut pas imaginer ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle est en train de vivre. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, sur l'adaptation du quotidien des maladies invisibles en tout cas.
Ouais, ok. Voilà. Mais, écoute, c'est un très beau message et je pense que ça touchera toutes les personnes qui nous écoutent. Et là, tu es en... En tout cas, t'es en super forme, même sportivement, ça a l'air d'aller. Et moi, je te souhaite vraiment de continuer à t'épanouir à fond. C'est quoi un petit peu tes perspectives, du coup, sportives pour les mois qui arrivent? Qu'est-ce que tu prépares de beau, là?
Pour les mois qui arrivent, alors m'entraîner jusqu'au 12 juillet, puis prendre des vacances.
Alors, je précise, on est le 21 juin.
Il fait beau.
Il fait beau, l'été arrive. C'est vrai que... Mais en plus, c'est hyper marrant parce que là,
on est en été aujourd'hui.
On est en été aujourd'hui, en fait, on était ensemble. Ça, c'est génial.
Exactement.
Mais c'est super parce que, en plus, tu vois, moi, j'ai plein de sportifs qui me disent ouais, là, en ce moment, je débute ma saison. Toi, tu fermes ta saison. Donc, tu vois, comme ça, c'est...
Oui, ça dépend d'un sport à un autre. Nous, on a la chance de commencer en septembre et de finir au début de l'été. Donc,
Ok. Donc là, vacances.
Oui, soleil, plage.
Tu peux nous dire où ?
Je sais pas encore. Mais ce sera au soleil avec un cadre assez reposant, mais quand même des choses à faire et un petit peu de sport.
Bien sûr, il en faut. Et l'année prochaine, il y a une compétition très connue.
Très importante.
Très importante. Dont tout le monde parle.
Très rêvée.
Très rêvée. C'est quoi comment tu te positionnes par rapport à ça et est-ce que ça fait partie de tes objectifs?
Bien sûr. Enfin, surtout que cette année, ça a été ma meilleure saison finalement sur le plan international. Pas sur le plan national, mais finalement, c'est pas ce qui m'importe le plus.
Ouais.
Parce que l'année prochaine, il y a les Jeux qui arrivent. Cette année, j'ai gagné une Coupe du Monde. J'ai fait un tableau de 16. Enfin, je finis 12e, quelque chose comme ça, à Cuba. Et je suis deuxième remplaçant de l'équipe de France. Donc, je me dis que ça reste encourageant, que j'ai montré ce dont j'étais capable et que c'est de bon augure pour l'année prochaine.
Bah ouais, c'est clair.
Et qu'à force de travailler, ça finit par payer.
Bah ouais. Bon, en tout cas, moi, je croise les doigts pour toi. J'aime bien un peu terminer les discussions un petit peu avec des petits conseils que tu pourrais donner, soit à des gens qui débutent un petit peu dans le sport ou dans l'escrime, et un petit peu sur toi, t'es gris-gris et tout. Il y a des choses que tu fais avant de...
Comme des superstitions?
Pas forcément, tu vois, ça peut être, tu vois, je...
Mes chaussettes préférées.
Ouais, tu peux avoir des chaussettes, une musique, je sais qu'on a tous un truc, tu vois, Rafael Nadal, je crois qu'il a...
Il touche pas les lignes, il marche pas sur les lignes.
Ouais, ouais, il y a plein de choses, il y a ses cheveux, il y a son bandana, il y a son slip, enfin, il y a tout un truc, tu vois. Mmh. Est-ce que toi, t'as des petites routines un petit peu comme ça, que tu fais le jour J ou juste avant de monter On dit quoi? On dit monter sur le...
Se brancher sur la piste.
Se brancher, ouais, c'est vrai que du coup vous avez un câble. Ouais.
Niveau des sous-vêtements, pas particulièrement. Enfin, même des vêtements, pas particulièrement.
Pas obligé de parler de ça, mais...
J'ai juste mes chaussettes préférées
ouais.
que je mets. Enfin, je réfléchis bien. Si je suis en forme, je les garde pour le deuxième jour. Okay. Et si j'ai besoin d'avoir. En fait, c'est les chaussettes que mon copain m'a données.
D'accord.
Si je me sens pas très bien physiquement ni mentalement, j'ai mis le premier jour pour me donner de la force.
D'accord, ok.
Trop mais je crois que c'est le seul.
C'est le seul gris.
Après, j'ai une playlist de sport, mais je l'écoute pour faire du vélo, pour aller courir, pour aller en compète. Donc,
Et tu peux raconter rapidement qu'est-ce qui se passe une heure avant un combat
tu... En général, on n'a même pas une heure.
Ouais, vous avez
nous, nos compétitions, ça se passe sous les... Enfin, à part pour les poules, on les connaît la veille. Mais en... Ah oui ça m'a rappelé un truc.
Vas-y.
Je ne regarde jamais mes matchs la veille.
D'accord. Okay.
Parce que je suis un peu stressé, donc sinon ça m'empêche de dormir.
D'accord, ok.
Donc soit
donc, tu regardes pas tes précédents matchs la veille d'un match.
Exactement. Okay. Je regarde pas mes poules la veille et je regarde pas mon match de tableau si je suis passé le lendemain.
D'accord. Ok.
C'est le seul.
Et du coup, ouais, juste avant de monter, tu fais quoi? Tu parles à ton coach?
Non, en général, je préfère être toute seule avec ma musique. Oui, vraiment toute seule, dans ma bulle.
Ok. Et tu penses à quoi?
À rien, je chante. Je fais du playback, je chante. Mais ça me permet de décompresser.
Ah, c'est super. Et grosso modo, elle ressemble à quoi l'ambiance sur une compétition d'escrime? Vous entendez bien entre filles ou...
Entre françaises ou avec les autres
les deux, aussi les deux. On parlera pas des allemandes, on a compris.
Non, on avait peur d'elles, mais on les aimait bien, c'était nos copines.
D'accord, ok.
Mais je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Et puis en plus, dans mon club, on a une polonaise.
Ouais.
Donc du coup, je me suis rapproché des polonaises. Donc par exemple, cette année, à chaque fois que je partais en compétition, mon amie polonaise me ramenait une spécialité polonaise.
D'accord.
Et je lui ramenais aussi une spécialité française. Donc ça permet de garder des petits liens dans d'autres pays. Et puis je trouve qu'on n'est pas là que pour gagner finalement.
Ouais.
On peut aussi avoir de belles amitiés dans le sport. Donc je trouve ça important.
Et du coup, toi t'envoies autour de toi des amitiés quand même. Et des...
Oui, je pense que dans chaque pays, presque, il y a une fille avec qui je m'entends vraiment très bien et avec qui je prends des nouvelles de temps en temps.
Ok, c'est cool. Mmh. Et ça ressemble à quoi un peu les entraînements de préparation physique que tu fais pour de l'escrime? J'imagine qu'il y a beaucoup d'appui, doit y avoir de la souplesse, de la rapidité. Ça ressemble à quoi, grosso modo?
Ça dépend de la période, mais par exemple, en début de saison, on faisait des côtes.
D'accord. Ah ouais, donc tu cours en côte.
Ouais.
Okay.
L'entraînement de l'angoisse. Mais
j'allais te demander ton entraînement préféré, mais moi, j'ai celui-là.
Celui-là. et puis, j'aime pas m'entraîner.
T'aimes pas la préparation physique?
J'aime pas tous les entraînements. J'aime juste la compétition, sauf que pour être bonne en compétition, il faut s'entraîner. Donc,
okay.
J'aime pas ça, mais je m'adapte.
Ok. Et ouais, donc tu travailles quoi? Tu travailles tes appuis, tu travailles...
Ça dépend, des fois on... Oui, c'est l'endurance, donc le cardio. D'autres fois c'est de la muscu.
Ok.
Parce qu'il faut quand même renforcer tout le corps. Surtout qu'on a un sport asymétrique, donc il faut que les deux soient assez équilibrés.
D'accord, ouais.
La force, parce que quand on va chercher une parade, il faut qu'on ait suffisamment de force pour s'opposer à l'adversaire. Qu'est-ce qu'on fait encore? Oui, du travail d'appui. Du travail de saut aussi, mais ça rejoint les appuis.
Ouais. Et ça ressemble à quoi une séance d'appui? Je suis un peu curieux là. C'est quoi? C'est faire des marches? C'est
ça dépend. Des fois, on le fait.
Tu travailles avec des cerceaux, ce genre de choses.
Ça peut être, ça peut ressembler à des entraînements que tout le monde fait. Enfin, tous les sports peuvent faire.
Ouais, de la pliométrie.
Exactement.
Ouais.
Et ça peut aussi être en spécifique avec des changements de direction. Comment dire? Avec des gestes d'escrime.
D'accord, ouais. Ok. Ah, c'est hyper intéressant. Et du coup, je te demande ton entraînement préféré. Apparemment, il n'y en a aucun. Ça, c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois qu'on me dit j'aime pas m'entraîner.
Je préfère être honnête. Hein.
La seule chose qu'il faut, c'est la compète, quoi. Mais c'est vrai parce qu'en fait, moi j'avais un coach. Je faisais sport et du tennis quand j'étais plus jeune. Et mon coach, il me disait le meilleur moyen de s'entraîner, c'est de faire des matchs tous les jours parce que y a que ça de vrai. On n'apprend pas mieux que sur un match, quoi. Donc, je peux te comprendre. Et moi aussi, ça me faisait vraiment pas plaisir de faire des gammes. Donc, je te comprends quand même.
Mais je réfléchis quand même, mais franchement. Si, les étirements, c'est sympa. J'aime bien m'étirer.
Ok, sur la partie souplesse.
Ouais.
Si tu pouvais retourner à tes 18 ans, le jour où tu souffles tes bougies, et si tu pouvais te donner un petit conseil sportif, ça serait lequel?
De ne pas me décourager que oui que le travail va finir par payer parce qu'en plus à cet âge-là j'étais en équipe de France mais j'avais pas des résultats satisfaisants en tout cas. Donc il est arrivé plus d'une fois que je me dise bah, là, je fais la saison prochaine et après j'arrête.
C'est vrai, tu t'es dit ça
Oui.
plusieurs fois?
Oui.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer du coup?
La compétition.
Le fait de gagner encore et encore.
Oui, et puis l'adrénaline. Et puis en général, même, enfin, c'est rare quand je perds que je me prenne des caisses, enfin que je me fasse complètement défoncer finalement,
Ouais.
sans aucune solution. J'ai toujours, oui, une solution pour le match prochain.
Ouais.
Donc ça aussi, ça m'a aidé à ne pas me décourager.
Ok, super chouette. Bah écoute, je t'ai déjà posé beaucoup de questions. Où est-ce qu'on peut te suivre un petit peu sur les réseaux sociaux ou autres pour tous les gens qui ont envie de suivre un petit peu tout ce que tu fais et suivre un petit peu ta progression?
Alors j'ai créé une page Facebook,
Ok.
donc avec mon nom et mon prénom, Hélène Ngom.
Ok, je le partagerai.
Merci. Et j'ai aussi un compte Instagram au même nom d'ailleurs. Donc
Ok.
c'est assez simple de me trouver normalement.
D'accord, ok. Bah,
Et mes comptes sont ouverts.
je partagerai tout ça. Je termine tous les épisodes en demandant qui serait l'invité que tu aimerais bien écouter pour le prochain épisode du podcast. Et pas forcément en escrime.
Alizée Agier, une karatékate.
D'accord, ok. Tu la connais?
Oui, on était en sport-études ensemble à Bordeaux.
Ok,
Et j'ai
d'accord.
gardé contact avec elle. Et je pense que c'est un des espoirs du karaté féminin.
D'accord, ok.
Elle est vraiment super forte depuis des années. Donc voilà.
Bon, bah, je te demanderai peut-être une petite intro alors.
Ça marche.
Bon, merci beaucoup, Hélène.
Mais merci à toi.
Salut.
Au revoir.
Merci d'avoir écouté jusqu'ici, ça me fait réellement plaisir. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à suivre l'activité d'Hélène sur Facebook ou Instagram. Je vous mets tous ces liens dans sa description. Aussi, n'hésitez surtout pas à me recommander des invités. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. La même chose en lisant vos avis sur iTunes. On se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.